Alors, merci à Jocelyn pour la présentation de ce livre, parce que quelque part, ça introduit aussi une partie de mon message, qui parlera bien sûr sur la résurrection du Seigneur, mais aussi sur quelque chose qui est étroitement lié, parce que Jésus, il n'est pas ressuscité pour lui-même, mais il est ressuscité afin de nous donner la foi, et la foi nous donne aussi d'avoir et de pouvoir pratiquer des œuvres pour notre Seigneur. Donc, on va parler des œuvres de Dieu, et je remercie aussi le Seigneur et notre frère Georges, vendredi, pour ceux qui étaient là, il nous a parlé aussi des œuvres hein, qu'on a à faire avec Dieu. Donc là, il y a un peu un tout, hein, que peut-être le Seigneur a quelque chose à nous dire, et je le crois, hein, pas seulement peut-être, je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire aussi par rapport aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alors pour ce dimanche de la résurrection, chaque dimanche, de toute façon, nous célébrons la résurrection, mais aujourd'hui, plus particulièrement, parce que si Jésus est mort le vendredi saint, nous savons qu'il est ressuscité un dimanche. Gloire à son nom. Et pour donc ce dimanche de la résurrection, nous allons lire un passage dans le livre des Actes, un passage qui vous est certainement connu. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui se fait déporter comme prisonnier à Rome, hein, et puis en chemin, vous savez, il a dû affronter une grande tempête. Et puis on va lire un peu des passages de ce récit qui seront un peu le fil rouge de ce message. Et puis après, des fois, j'irai piquer des textes ailleurs, mais voilà, le fil rouge de ce message est sur le livre des Actes, sur cette tempête. Pourquoi ? Parce que simplement, notre monde actuel aussi traverse parfois des grandes tempêtes. L'exemple de Paul, ici dans le livre des Actes, qui a dû traverser une terrible tempête tout en gardant la foi, est quelque chose de bien actuel pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si Jésus-Christ est ressuscité, c'est afin que nous puissions avoir la foi en Dieu. Et c'est bien là la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que, et nous le verrons un peu plus en détail, nous ayons toutes choses en lui. Amen. Si Jésus est ressuscité ce matin, c'est afin que tu aies toutes choses en lui. Tu es largement béni ce matin par la résurrection de ton Seigneur et au travers de ta foi. Alors, on commence cette lecture dans Actes, donc Actes 27, et nous commencerons au verset 13. Actes 27, verset 13. Donc, Paul va prendre un bateau, il est prisonnier, hein, et au début, tout semble bien commencer. Acte 27, verset 13. « Un léger vent du sud vint souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Donc, au début de ce récit, nous voyons une première erreur de la part des matelots. Ils se croyaient maîtres de leur destin. Hein? Et aujourd'hui, c'est bien le cas de beaucoup d'êtres humains sur cette terre. Ils pensent qu'ils sont maîtres de leur destin, maîtres de leur destinée, maîtres de leur existence. Et tout à coup, le vent vient à se lever. et c'est pas juste un petit vent pour commencer à surfer plus vite sur les vagues avec le bateau, mais c'est véritablement un vent de tempête. Et ils vont chercher à lutter par leurs propres efforts, mais rapidement, ils vont devoir s'avouer vaincus, obligés de descendre les voiles et de se laisser entraîner par les flots déchaînés. Ils vont essayer de ceindre le navire et puis de jeter la cargaison par-dessus la mer. Et le troisième jour de la tempête, hein, faut s'imaginer, déjà 3 jours, vous êtes au troisième jour, hein. Déjà 1 jour, c'est pas simple, hein. Je vais mettre ici sur nos lacs, si la tempête est là, on a vite les secours, hein. En plus, on vous l'annonce. Mais bon, ça arrive que des fois des gens se fassent prendre. Mais ici, ils sont au troisième jour. Et au troisième jour, ils lancent les agrès du navire, c'est-à-dire c'est le matériel mobile nécessaire à la manœuvre du navire, comme les voiles, le cordage, les câbles, le pouillage, les vergues. Les vergues, ce sont les barres en bois qui soutiennent les voiles et qui sont raccordées au mât, etc. Donc tout le matériel nécessaire à la navigation, en tout cas une grande partie, hein, vu qu'ils voyaient que la situation était désespérée, ils ont gardé peut-être que le strict nécessaire et hop, par-dessus la mer. Et quand vous avez recours à ce genre de manœuvre, c'est que la situation est véritablement désespérée. Et c'est bien ce que confirme la fin du verset 20, que la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Je continue le récit au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point. » Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Ce qui fait la différence dans cette situation de tempête, et ce qui fait, je veux le croire aussi, la différence dans notre société qui traverse bien des tempêtes, c'est la présence d'un homme de foi. Amen. Et cet homme, c'est Paul. Et j'espère que ce matin, dans ce monde aussi un peu en tempête et déchaîné, il y a des hommes et des femmes de foi dans cette église. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre, qui sont connectés au Seigneur, qui ne regardent pas les circonstances, mais qui s'attendent à la fidélité de Dieu. Nous avons le privilège de connaître ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et c'est pas une tradition, c'est pas simplement un oui-dire ou que sais-je encore. Non, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont actives dans nos cœurs aujourd'hui parce que Dieu y travaille, parce que Dieu nous donne la foi. Et nous allons lire un texte, après on reviendra dans Actes, au Romains 8. Alors c'est juste 2 versets avant que le texte d'introduction que nous a lu notre frère, que tu as cité Romains 8, je me suis dit, oula, 8, 30, il a dit 33, puis en fait moi c'est 31, 32, donc voilà, c'est juste à côté. Alors Romains 8, 31, qui nous indique à quel point nous sommes bénis par la mort et la résurrection du Seigneur. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, hein? Paul parlait de toutes les choses négatives qu'on pouvait traverser dans la vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que pouvons-nous dire à l'égard de ce que nous traversons des fois dans ce monde de compliqué à plein de niveaux, hein? Que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de notre famille, au niveau de notre société, au niveau de notre économie. Que pouvons-nous dire à l'égard de ces choses? Mais on doit se rappeler que si Dieu est avec nous, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Hein? Est-ce que tu crois que Dieu est pour nous? Amen. Nous croyons que Dieu est pour nous. Nous croyons que Dieu est à nos côtés. Nous croyons qu'au travers de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il vit en nous. Nous avons cette espérance. Dieu avec nous. Dieu pour nous. C'est extraordinaire d'avoir Dieu avec soi. Hein? Tu n'as pas rien dans ta barque ce matin, dans ta vie. Dieu est avec toi. Que veux-tu de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que tu peux recevoir dans ce monde si ce n'est Dieu? Extraordinaire. Dieu est avec toi parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, parce que le Père a décidé d'offrir Jésus en sacrifice afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir la foi, afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie en lui. Nous serons toujours plus que vainqueurs avec le Seigneur. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour quelques-uns, non, pour nous tous. Nous tous qui avons la foi, Jésus a été livré pour que nous puissions recevoir toutes choses avec lui. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Hein? Si Jésus s'est livré, c'est afin que ce matin, nous ayons toutes choses avec lui. Si Jésus a accepté les souffrances, a accepté les insultes, a accepté les déshonneurs, ce n'est pas afin que notre société aujourd'hui puisse avoir quelques jours de repos au début du printemps ou avoir une abondance des œufs, de la mayonnaise et du chocolat à profusion. Hein? C'est bien plus que cela. C'est que afin que par la foi, nous puissions avoir toutes choses en lui. Nous avons toutes choses en lui, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la piété, à une vie sincère en lui. Nous avons toutes choses en lui, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence nécessaires pour mener une vie qui plaise à Dieu. Amen. Hein? C'est vrai que des fois, on doit se laisser conduire, comme tu nous parlais par rapport à ce livre. Hein? Des fois, on doit se laisser. Des fois, Dieu nous laisse clairement une direction dans nos vies, mais des fois, Dieu nous donne aussi l'intelligence et la sagesse nécessaires. On n'est pas des petits robots, des petites marionnettes comme ça. Hein, Dieu nous a créés avec un libre choix afin qu'on puisse prendre des responsabilités. On va devenir des adultes à la stature parfaite de Christ. Voilà. Alors là, il y a du job. Hein? On est tous en chemin par rapport à ça, je vous rassure. Hein? On a toutes choses en lui, c'est-à-dire que sur le plan émotionnel, il nous remplit par la présence de son Esprit Saint. Lui seul peut apaiser notre âme et lui donner la paix dont elle a besoin en chaque circonstance de vie. Amen. Nous avons toutes choses avec lui, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de nos besoins matériels et financiers, afin que nous puissions mener une vie décente. Et là aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. Hein. Ah, le Seigneur va faire pleuvoir des billets violets, s'il te plaît. Hein. Pas des billets jaunes, Seigneur. Moi, je veux des billets violets au nom de Jésus. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur va te donner des capacités, va te donner des qualités pour que tu puisses t'impliquer dans une profession ou dans une autre, et il va faire fructifier ton travail comme il a fait fructifier le travail de Joseph. Rappelez-vous, Joseph était un simple esclave, hein? Mais Dieu l'a béni, et au travers de cette bénédiction, il était une bénédiction pour de nombreuses personnes. Il peut en être exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Nous avons toute chose avec lui, c'est-à-dire que même si nous sommes frappés par la maladie, soit il nous guérira, ou soit il nous donnera la force de supporter celle-ci. Et nous avons toute chose avec lui, c'est-à-dire que les plus grandes et les plus belles promesses nous sont données dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces promesses sont tellement belles, tellement précieuses, tellement grandes, qu'on peut pas les exprimer. On peut en dire quelque chose, mais on n'en a même pas l'intelligence, parce qu'on on voit qu'une partie. On n'a pas la vision du tout, de tout ce que le Seigneur déjà veut faire dans nos vies ici-bas. Tu n'as pas la vision. Hein? Bon, peut-être si tu es en âge avancé, tu vois ce que le Seigneur a permis de faire dans ta vie, comment il a agi, comment il a œuvré au travers de ton existence. Gloire à Dieu. Mais si tu es jeune, tu n'as certainement pas la vision de tout ce qu'il va faire jusqu'à ta retraite et après. Hein? Le Seigneur, il a encore des surprises, et il a encore des surprises aussi pour les retraités, voilà, hein? Vous êtes rassurés, les retraités. Hein? Dieu, même pour les retraités, il a encore des bénédictions extraordinaires que peut-être tu n'arrives pas à t'imaginer. Le Seigneur veut pas que tu restes les bras croisés, il va agir également au travers de ton existence. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Alléluia! Hein, si on peut se rappeler de ce verset Romains 8, 32, le méditer dans notre cœur pour comme, voilà, un verset un peu phare pour Pâques de cette année. Alors, on va continuer la lecture d'un acte, toujours avec le périple de notre ami Paul, il en a vu, lui, hein. Alors, Paul le naufragé. Acte 27, 33. On arrive gentiment au naufrage. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Paul y mangeait, lui, parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait la foi en Dieu. Mais tout le reste du bateau, ils étaient tremblants, un peu comme des poules mouillées. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Hein, voilà. Ils savent que, quelque part, ils commencent à avoir la foi, ils font ce geste, ils jettent le reste du blé, parce qu'ils savent, quelque part, que Dieu va intervenir sous peu. Ils font un geste ici de foi. Paul les a exhortés. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Voilà un exemple vraiment d'un homme de foi. Et que nous aussi, dans cette société qui est des fois dans bien des tempêtes, et pas forcément nous personnellement, mais des gens qui nous entourent traversent aussi régulièrement des tempêtes, que dans ces situations de difficulté, nous puissions semer encore la foi en Dieu autour de nous, que nous soyons quelque part contagieux, vu que nous avons tout reçu au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Si on continue le récit de Actes, au verset 39, on va voir le naufrage en détail. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour le laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Hein, la tempête était encore là. La proue, l'avant du bateau, s'est plantée dans un haut fond, et l'arrière du bateau se faisait quelque part massacrer par les puissantes vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Voilà, la parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Et aucun n'est mort. Et je pensais à un naufrage qui a eu lieu en 2012, que beaucoup peut-être se rappellent, un bateau en Italie du nom de Costa Concordia. Ça vous dit quelque chose? hein, un fameux bateau là en Italie qui avait passé 4000 passagers à son bord. Et puis vous verrez sur un point le récit des Actes rejoint ce qui s'est passé sur ce Concordia. Donc le capitaine avait pris la décision de passer tout près d'une île en Italie. Alors je sais pas comment on prononce ça, c'est Giglio, c'est juste Giglio. Alors, je m'excuse, hein. Je ne leur dirai pas, hein. Je ne veux pas massacrer le nom de cette belle île. Il avait décidé de passer tout près, c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans les croisés, de passer tout près d'une île, hein, avec tous les feux allumés si on est de nuit, et puis comme ça les gens au bord de la mer peuvent voir le bateau passer tout près, et puis les personnes qui sont sur le bateau, ben, ils voient de tout près les récifs, etc. Seulement, cette fois, notre cher capitaine a été un petit peu trop téméraire et il a croché carrément un récif, et le bateau s'est ouvert sur une longueur de 53 mètres, et puis avec une fissure qui était jusqu'à 7,50 mètres de large. Donc, bam, le bateau était directement perdu, les moteurs se sont directement arrêté. Et au fait, le capitaine, ce soir-là, hein, vous savez qu'il n'a pas été très courageux, hein, il est un des premiers à fuir, hein, vous connaissez l'histoire, et d'ailleurs, il a pris 16 ans de clous ferme. Hein. Mais il a pris une bonne décision. Quelle était sa bonne décision? C'est que même si les moteurs étaient arrêtés directement, ils ont été noyés sous l'eau, le bateau, il a une inertie énorme, un bateau, hein, c'est un énorme bateau avec 4000 passagers, hein, c'est un gros bateau de croisière. Alors, avec l'inertie, il a décidé de renvoyer le bateau au large afin de lui faire une boucle et puis de le faire se chavirer, en fait, sur l'île. Et ça, c'est la seule bonne décision que le capitaine a prise. Un peu comme ont pris les matelots avec Paul, hein, quand ils ont vu une terre, ils ont dit, on va aller s'échouer. Ce sera notre seule issue de secours, c'est d'aller s'échouer et espérer pouvoir rejoindre le bord sain et sauf. Alors, en prenant cette décision, bon, il y a quand même eu passé 30 morts, mais des personnes, parce qu'à un moment donné, sur le Concordia, donc ils ne pouvaient plus rejoindre les chaloupes, d'autres étaient tombés accidentellement, certains avaient pu partir avec des chaloupes, mais d'autres, vu qu'ils étaient à un endroit qu'à 150 mètres du bord, ils ont pu rejoindre à la nage. Hein, même que c'était l'hiver, c'était début janvier, ils ont pu rejoindre à la nage. Et voilà comme beaucoup de personnes ont encore été sauvées. Donc cette décision, prise aussi par les matelots dans le cadre du récit du naufrage de l'apôtre Paul, était la bonne. Et à un moment donné, les soldats s'étaient décidés de tuer chaque prisonnier, mais on voit que Dieu a protégé Paul, parce que Paul avait une mission, il devait comparaître devant César. Hein? Et parce que Paul avait cette mission, Dieu a préservé la vie de Paul. Et toi aussi, tu as une mission encore sur cette terre, et Dieu préserve ta vie aussi pour cette mission. Amen. Hein? Et le centenier qui avait à cœur Paul l'a protégé. Pourquoi? Parce que justement, Dieu avait cette vision pour Paul. Il a fait que les circonstances qui semblaient vraiment aller à l'encontre complète de ce voyage-là, Dieu a pourvu, Dieu a protégé. Et il en est de même pour chacun d'entre nous, quoi que nous traversions, Dieu pourvoit pour ta vie. Amen. Dieu te protège parce que tu as encore une mission sur cette terre, parce que tu es encore appelé à le servir. Acte 28, on arrive gentiment à la fin de ce récit. Verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Le malheur semble donc s'acharner sur la vie de Paul. Et les habitants de l'île, hein, parce que les barbares, en fait, c'était une expression en grec, mais ça voulait dire les étrangers, hein, ceux qui sont pas grecs, ceux qui sont différents de nous, quand ils voient ça, ils se disent, oh là là, ben, oh, la justice, celui-ci, ça devait vraiment être un meurtrier. Hein. Et ils n'avaient pas compris que, en fait, c'était par cet homme que tout le monde avait été sauvé dans ce bateau. Parce que s'il n'y avait pas eu Paul, il n'y aurait pas eu, moi je pense, hein, ça aurait mal terminé. Parce qu'on n'a pas lu, mais au début du récit, au début de la tempête, les matelots, quand, ils ont fait comme le capitaine du Concordia. Hein, quand la tempête est arrivée, ils ont voulu descendre la chaloupe et puis pff, se barrer tous. Hein. Tu ne veux pas payer de ta vie pour des minables prisonniers. Hein. On peut quelque part peut-être à la limite les comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du capitaine? Oh ben ces touristes là, ces Allemands là, moi j'aime pas les Allemands de toute façon, je pars, hein, ou ces Français, il y avait des Français que sais-je, on n'était pas dans sa tête. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu Paul, et aujourd'hui dans la société, s'il n'y a pas des Paul et des Paulettes, hein, des hommes et des femmes de foi, eh ben personne ne sera sauvé, c'est sûr, c'est sûr. Dieu a besoin de chacun d'entre nous, ne serait-ce que pour annoncer l'Évangile. Personne ne sera sauvé si aucun chrétien n'annonce l'Évangile. C'est une certitude. À part peut-être quelques situations où on connaît, hein, où en effet des gens ont des fois des visions de Jésus-Christ et tout, mais à un moment donné, il y a bien des gens qui commencent à leur parler du Seigneur. Et puis, parce que bâtir une église, ça ne se fait pas comme ça. Donc aujourd'hui, dans notre monde en tempête, Dieu a placé des Pauls et des Paulettes. Hein? Il a placé des hommes et des femmes, chacun d'entre nous, simplement, qui ont la foi en Jésus-Christ, afin d'apporter une bonne nouvelle de vie et non de mort. Et quand on voit comme le malheur semble s'acharner sur l'apôtre Paul, on sait qu'en fait, là derrière, c'est le diable. Et si toi aussi le diable semble s'acharner sur ta vie, reste calme, appuie-toi sur ton Dieu, parce que le Seigneur a encore des promesses, il a encore des visions pour ta vie. Amen. Hein? Ce que Paul a fait, il a pris le serpent parce qu'il avait cette vision, il savait, Dieu lui avait dit, mais Dieu lui a pas répété 40 fois par jour, « N'aie pas peur, tu vas comparaître un jour devant César ». Dieu lui avait révélé la mission qu'il avait encore à accomplir, et parce que Dieu lui avait révélé cette mission-là, il n'a pas pris peur du serpent, il a mis le serpent au-dessus du feu, et le serpent est tombé dans le feu, et il n'a pas été touché. Alléluia. Il en est pour de même pour toi, si tu crois que tu as encore une mission sur cette terre, combien l'ennemi cherchera peut-être à s'acharner sur toi, n'aie crainte. Tu as autorité sur le diable. Et des fois que tu en passes par de temps difficiles, eh ben, c'est que derrière, il y a une bénédiction. Et c'est ce qu'on va voir ici dans la fin de ce récit. Acte 28, les versets 7 et 9, que je terminerai mon message là-dessus. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et furent guéris. Alléluia! Le Seigneur avait une mission pour Paul, et même sur cette île, là où ils avaient fait naufrage, hein, où ils n'avaient rien à offrir, Mais ils avaient Jésus, Paul avait Jésus avec lui, et c'est ce Jésus qui a fait encore une différence, et beaucoup de personnes, on peut s'imaginer, se sont converties au travers de ce miracle. Qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous tienne debout pour lui, rempli de foi, croyant que le Seigneur est à nos côtés, croyant qu'il va accomplir ses promesses. Je lis encore un passage dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, où on voit les bénédictions qui sont liées à l'œuvre de la croix, puisque nous avons toutes choses en lui. Éphésiens 2, les versets 8 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce qu'on est sauvés, c'est pas par les œuvres. Par le moyen de la foi. C'est au travers de ta foi en Jésus-Christ que tu es sauvé. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais ça ne veut pas dire que le salut s'arrête là, et que la foi s'arrête là. Hein? La foi sans les œuvres, dit Jacques, elle est morte. Et si on est sauvé, c'est afin de pouvoir œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Et quelque part, ça vient témoigner que nous sommes bien sauvés, que nous sommes bien en vie. Quelqu'un qui est vivant, il va apporter la vie. Alléluia. Hein? Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités. Alléluia. Hein? Pas encore avec un nouveau corps, on est bien d'accord. Mais cette vie nouvelle, elle est déjà en germe, elle produit déjà un fruit en chacun d'entre nous. Et bien sûr, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi, nous allons entrer dans des œuvres. Ça rejoint un peu aussi, là, peut-être quelque part, ton bouquin, hein, que la foi, ce n'est pas juste un petit truc mystique où tu te connectes au ciel et puis tu es bien. Bon, bien sûr, on reçoit la présence du Saint-Esprit, mais ça nous met en mouvement. La foi, ce n'est pas simplement rester dans le coin de ta chambre et rien faire en retour. Je recherche une citation voilà, de Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur, vous connaissez, je pense, qui a été quelqu'un qui a lutté contre le nazisme en son temps, et ben, il en a payé le prix, hein, on l'a mis à mort, les nazis l'ont mis à mort. Et voici une de ses citations. « Faire et oser... Non pas n'importe quoi, mais ce qui est juste. Non pas planer dans le possible, mais saisir avec courage le réel. Ce n'est pas dans des fuyantes pensées, mais dans l'action seule qu'est la liberté. » Je répète. Faire et oser, non pas n'importe quoi, mais ce qui est juste. Non pas planer dans le possible, mais saisir avec courage le réel. Ce n'est pas dans des fuyantes pensées, mais dans l'action seule qu'est la liberté. Hein? Si Dieu nous donne la foi, c'est afin que nous puissions nous mettre en action. Et que le Seigneur fasse grandir cette foi-là, cette foi qui nous met en mouvement, cette foi qui ose, cette foi qui témoigne, cette foi qui sert, cette foi qui est impliquée aussi dans le monde professionnel. Et nous qui portons le ministère du Christ, nous qui portons un ministère spirituel, mais qui s'incarne dans chacun de nos existences. Je terminerai ainsi, en lisant là ce que j'ai marqué pour la fin du message. Ainsi, la foi et les œuvres ne seront pas vaines, inutiles, irréelles, futiles, dérisoires, insignifiantes, inefficaces. Non, notre foi et nos œuvres qui seront rattachées ensemble témoigneront glorieusement, puissamment, majestueusement, efficacement, profondément, de manière renouvelante, apaisante, joyeuse, somptueuse, que Christ vit en nous. À lui soit la gloire pour un si grand salut accompli à la croix de Golgotha. Et à lui seul soit la gloire de nous régénérer afin que nous puissions le servir sur cette terre, sur la terre des vivants. Amen.